Néhémie chapitre 9, Esther va nous faire des lectures à partir de 9, verset 38. Et puis on va se promener un petit peu parce qu'on lit une très longue section ce matin, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au chapitre 12, verset 43. Esther va vous épargner les généalogies. Alors soyez bien attentifs, on va sauter quelques sections. Mais avant de laisser Esther lire, je voulais dire à ma femme que je l'aime parce que demain, on fête notre 19e anniversaire de mariage. Dans Néhémie, on parle d'alliance et Israël va renouveler son alliance avec son Dieu. Dans ma vie à moi, j'ai plusieurs alliances. J'ai une alliance premièrement avec mon Dieu, j'ai une alliance avec mon épouse qui doit refléter cet amour que j'ai pour mon Dieu. J'ai une alliance avec mon Église. C'est vraiment une grâce d'avoir Esther comme compagne. Je ne sais pas si vous pourrez lire après ça. OK, Néhémie 9, verset 38. On écoute ensemble la parole de Dieu.
Néhémie 9, 38. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia. Et toutes les gentilles personnes suivantes, on les saute. On va au chapitre 10, verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères, les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour le coste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de moût et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. On va avancer à la dédicace de la muraille de Jérusalem, au chapitre 12, verset 27. 12, 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétopatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmaveth, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai deux grands chœurs, deux grandes chorales. Je m'excuse, chérie. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Hosée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaïja et Jérémie. Des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph. Et ses frères, Shemaïja, Azariel, Milalai, Gilalai, Mahai, Nétanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils gravirent par la montée de la muraille les degrés de la cité de David qui était en face d'eux, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs, Eliakim, Maaséja, Minjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaséja, Shemaïja, Elaïzar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam et Ézer. Les chantres se firent entendre, dirigés par Jizrakja. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin.
On va prier ensemble. Eh bien, Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est sainte. Ta parole nous vient de toi pour nous parler de ta grandeur, de ta bonté, de ta grâce, de ta patience, d'un Dieu trois fois saint qui nous ressemble parce que nous avons été créés à ton image et qui en même temps est tellement, tellement plus grand que nous, Seigneur. Saint, juste et bon, parfait. Tes pensées, Seigneur, sont au-delà de nos pensées, Seigneur. Seigneur, de voir ce peuple qui chemine avec toi, à ce moment dans son histoire, s'engage d'un cœur joyeux envers toi, Seigneur. S'engage très sérieusement. On le voit, Seigneur, par les détails de cet engagement envers toi, combien il prenait, Seigneur, ce moment à cœur. Et en même temps, nous voyons toutes les réjouissances qui sont là, Seigneur. Père, j'aimerais te demander de nous instruire ce matin, de parler à nos cœurs, de parler, Seigneur, à nos âmes, de nous parler de toi, de ta grâce envers nous, de ta patience envers nous, comme tu as été si patient envers Israël, et de cette volonté que tu as, Seigneur, de construire avec nous. Je te prie, Père, de m'accorder la grâce de communiquer clairement ta parole. Nous sommes si loin, Seigneur, de cette époque où des sacrifices étaient offerts et tout ceci peut nous rendre aveugles, rendre les choses insaisissables pour nous. Les choses pourraient manquer de concret à nos yeux. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être concret et clair et que ton esprit, Seigneur, vienne faire toute la différence ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, c'est un long passage. C'est un long passage et nous arrivons à la fin du livre de Néhémie. Encore deux, peut-être trois dimanches. Je suis en train de voir exactement comment je vais terminer. Mais on arrive à la fin du livre de Néhémie et c'est une longue période. Hein. Je l'ai mentionné à quelques reprises. Ce livre-là se déroule sur à peu près 12 ans. Et donc, on arrive aussi à la fin de cette œuvre que Dieu avait appelé Néhémie à faire avec le peuple d'Israël. Est-ce que je suis en train de voir 20 cas là-bas? Je m'excuse. 20 cas, je te salue. Salut. On est en train de voir donc la fin de l'œuvre que Dieu avait appelée Néhémie à conduire auprès d'Israël, d'accord? Néhémie avait une vision, cette vision, Dieu lui a accordé la grâce de l'accomplir avec le peuple. Et je veux dire, le climax de ça, le summum de ça, c'est lorsqu'on arrive à la fin et il y a cette fête où on célèbre, on dédie les murailles à l'Éternel, puis on dit, Seigneur, ces murs-là, c'est pas seulement pour notre bien, c'est pour la gloire de ton nom, et il y a des réjouissances incroyables. Maintenant, c'est vrai que si vous n'êtes pas très familier avec les Écritures, il y a tout ce récit du détail, des détails liés au sacrifice, et ça nous ramène à une époque où parfois ça peut être loin pour nous comprendre ces choses-là parce qu'il n'y a plus de sacrifice, on ne fait plus ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on ne les fait plus? Essentiellement, c'est à cause du sacrifice de Christ. Jésus est venu et par son sacrifice, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, est venu accomplir tout ce que ces choses-là annonçaient. D'accord? Alors, Néhémie, ça se passe avant la venue de Jésus-Christ. Lorsque Christ est venu, il a accompli bien des choses que ces pratiques-là annonçaient. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons plus cela. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des principes importants à apprendre. Puisque ces gens-là cherchaient Dieu, c'était le peuple de Dieu qui voulait marcher avec Dieu. Nous avons donc des principes importants à apprendre, et l'Évangile aussi. L'Évangile, ce message de grâce et de pardon que Dieu a pour nous, est là aussi dans ce livre et même dans ces chapitres-là que nous allons survoler rapidement ensemble ce matin, et je vais m'efforcer de vous les montrer ce matin. Mais premièrement, je voudrais attirer votre attention, c'est simplement sur le verset 38. Et je veux juste vous replacer dans le contexte parce que la semaine dernière, on a eu les baptêmes. Et donc, on a eu un dimanche où on a sauté tout ça. Mais à partir, tout le chapitre 9, c'est une longue prière où le peuple est réuni ensemble et le peuple est en train de se rappeler son histoire avec Dieu et la fidélité de Dieu et combien Dieu a été gracieux envers le peuple d'Israël parce qu'Israël a souvent été infidèle, Israël a souvent été rebelle et fois après fois, moment après moment, dans leur histoire avec Dieu, ils se rappellent combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Et chaque fois qu'ils se sont repentis, qu'ils se sont tournés vers Dieu, qu'ils sont revenus à Dieu, Dieu leur a ouvert les portes, Dieu les a ramenés à la maison, Dieu s'est réconcilié avec eux, parce que Dieu est fidèle malgré nos infidélités. Et c'est ça l'histoire de toute cette prière, c'est ça l'histoire d'Israël, c'est ce qu'ils se sont rappelés. La conclusion de cette longue prière, c'est le verset 9:38 ou 10:1 selon l'édition de la Bible que vous avez. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. Pour tout cela, pour toutes ces raisons, parce que Dieu est gracieux, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est patient. Et c'est ça l'histoire d'Israël. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, c'est votre histoire aussi, c'est mon histoire à moi. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est patient, parce que Dieu est gracieux, parce que lui demeure fidèle à son alliance faite avec son peuple, le peuple d'Israël dit, nous avons contracté, nous avons renouvelé notre engagement envers notre Dieu. C'est mon histoire. Moi, je peux dire avec Israël, pour tout cela, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es patient, parce que tu es gracieux, pas parce que je regarde à mon cheminement depuis le jour où j'ai fait profession de foi de devenir chrétien, le jour où j'ai décidé personnellement de suivre Jésus-Christ, quand je regarde mon parcours, ce n'est pas un parcours de fidélité, ce n'est pas un parcours irréprochable que j'ai avec Dieu. Mon histoire personnelle avec Dieu, c'est une histoire de grâce de la part de Dieu. C'est une histoire de fidélité de la part de Dieu. C'est une histoire de patience de la part de Dieu. Pour ma part, c'est une histoire de bons moments, de mauvais moments, de repentance. Continue. Alors moi, je peux dire avec Israël, pour tout cela, je suis chrétien. Pour tout cela, j'ai décidé de devenir chrétien, devenir disciple de Jésus-Christ. Je me suis engagé envers Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien comme moi, c'est votre histoire. C'est votre histoire. Si une personne ici croit, qu'elle a été fidèle et irréprochable envers Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Si une personne croit ici qu'elle peut satisfaire, égaler ce que Dieu est dans sa personne, cet être parfait, amour, juste, incorruptible, si l'un d'entre vous croit que vous pouvez accoter ça, comme on dit au Québec, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas la moindre idée de qui est Dieu. Dieu, c'est l'autre qui n'est pas tordu et tout croche comme vous et moi. Et lorsque Dieu s'engage envers nous, si la relation demeure après 20 ans de vie chrétienne entre Dieu et moi, c'est parce que c'est une histoire de grâce de la part de Dieu. C'est une histoire de fidélité de la part de Dieu. C'est une histoire de patience de la part de Dieu. C'est à ça qu'on assiste ce matin dans ce passage. Ce moment où Israël révise, revoit son histoire, l'histoire du peuple d'Israël dans son alliance avec l'Éternel, et après avoir revu leur histoire, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est « Seigneur, pour toutes ces raisons, on veut s'engager à nouveau envers toi. Tu es tellement extraordinaire. Tu es tellement merveilleux. » Et c'est ce à quoi on assiste ici. Alors Israël va renouveler ses vœux, si je pourrais dire. Va renouveler son alliance avec l'Éternel. Maintenant, il y a deux éléments. Il y a deux aspects à cet engagement qu'ils vont prendre avec Dieu, avec cet engagement qu'ils vont contracter avec Dieu. Il y a un engagement global, premièrement. Israël va s'engager d'une manière globale et deuxièmement, ils vont porter une attention particulière à certains éléments. Et ça, c'est un aspect important, d'accord? Depuis le début de l'histoire de Néhémie, on est en train de parler de reconstruction. On est en train de parler de choses que Dieu a pu placer devant vos yeux, sur votre cœur, où Dieu veut reconstruire le témoignage de sa gloire, que ce soit dans votre évangélisation personnelle, dans vos finances personnelles, dans votre relation de couple, dans votre témoignage au travail, dans votre témoignage avec les voisins, dans votre relation avec vos enfants. Peu importe, des places, des domaines où l'Esprit de Dieu vous a montré qu'il voulait reconstruire, voulait opérer une reconstruction. Et nous sommes en train d'apprendre de la part de Néhémie des principes pour un homme et une femme de Dieu, comment reconstruire avec Dieu. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Maintenant, ce que je vois, ce que je note ici concrètement dans ce passage, c'est qu'il y a deux aspects à leur engagement. Il y a premièrement un engagement global et puis il y a une attention particulière portée à certains éléments de la loi de Dieu où ils estiment qu'ils doivent s'engager vraiment précisément, clairement, de manière pratique. Et je pense que c'est important. Si Dieu veut opérer une reconstruction dans votre vie personnelle, il doit y avoir ces deux éléments-là. Les deux éléments doivent être présents. On va revenir sur ça, mais retenez ceci, d'accord? C'est important. Maintenant, je fais une parenthèse qui me semble aussi très, très importante dans le passage ici. C'est révélateur de ce que c'est la marche avec Dieu. D'accord? Portez attention à ça. Ce matin, nous sommes tous ensemble. On pourrait dire que nous sommes dans une situation communautaire. Et c'est ça qu'on voit ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Des fois, on a l'impression que marcher avec Dieu, et surtout ceux qui ne sont pas familiers avec les Saintes Écritures, peuvent avoir l'impression que c'est une patente de communauté, cette affaire-là. C'est un phénomène de groupe, c'est un phénomène de masse, c'est un phénomène de foule où tout le monde est en train de se suivre. T'es né baptiste, tu vas mourir baptiste. T'es né évangélique, tu vas mourir évangélique. T'es né musulman, tu vas mourir musulman. C'est pas ça que je vois ici. Voyez-vous, il y a deux volets aussi à l'engagement, en ce sens qu'il y a un aspect communautaire et il y a un aspect aussi individuel et intelligent. Quand je dis intelligent, je veux dire compris sur une base individuelle que possible. Regardez avec moi le verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, je suis au chapitre 10, verset 28, les Néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Alors, ce n'est pas une affaire de chef, ça. Ce n'est pas une affaire de chef de famille. Ce n'est pas une affaire de chef de tribu. Ce n'est pas une affaire de père de famille. Voyez, toute la communauté est rassemblée, toute la communauté considère l'engagement à prendre et on instruit et on éclaire. Et si vous vous rappelez les chapitres précédents, c'est ça qui s'est passé de manière vraiment prolongée pendant des heures de temps. On lit la loi afin que chacun puisse comprendre et clairement le narrateur est en train de dire, tout le monde était là, homme, femme, enfant, garçon, fille. Dès que quelqu'un avait l'intelligence de comprendre, on voulait qu'il soit là. Si votre vision de la foi, si votre vision de la foi évangélique, vous savez qu'une des seules églises en Amérique du Nord qui est en croissance, c'est l'église évangélique. Une des églises les plus rapidement en croissance dans le monde, c'est l'église évangélique. Alors, vous entendez toutes sortes de choses, vous avez une vision, vous lisez dans les médias toutes sortes d'histoires, vous entendez parler des monsieur camping de ce monde. Écoutez, ça prend toujours un spécial dans toutes les familles, d'accord? C'est ça. Et la vision que vous pouvez avoir justement de cette foi-là, c'est une espèce de phénomène de masse où les gens vont à l'église, ils suivent le bonhomme en avant, c'est le curé en avant, il est là pour donner une direction, on est en train de suivre. Soyez attentifs à ce qui est dit ici. C'est pas ça que vous entendez ici. Si vous étiez avec nous dimanche dernier, ce n'est pas ça que vous avez vu ici. Ce que vous avez vu et entendu la semaine dernière, c'est le témoignage intelligent, réfléchi, personnel de 5 personnes qui se sont fait baptiser. Je l'ai mentionné devant l'Assemblée, pour moi, c'est une joie, c'est une grâce, c'est une fierté aussi, j'ose le dire, de pouvoir entendre des gens qui peuvent énoncer personnellement ce qu'ils croient et affirmer personnellement leur choix. C'est à ça qu'on assiste ici. Et en lisant l'ensemble de l'Ancien Testament, vous verriez que le mandat était donné au papa de chaque famille d'instruire toute la famille, d'instruire les enfants, de saisir toutes les opportunités pour enseigner pourquoi on fait ces fêtes-là, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. C'est quoi l'objectif qui est derrière ça? C'est qu'il y a bien sûr un engagement communautaire. C'est vrai. C'est vrai, nous avançons ensemble. C'est vrai qu'avancer ensemble, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus sain, on se supporte les uns les autres. Mais ce que nous cherchons, c'est une intelligence, une compréhension individuelle, un engagement du cœur personnel. Évidemment, ça implique beaucoup de responsabilités pour vous, parents. Ça implique une responsabilité pour les parents ici. Vous avez le mandat d'enseigner à vos enfants qu'on ne va pas à l'église parce qu'on va à l'église. Vous avez le mandat d'enseigner à vos enfants qu'on ne prie pas parce qu'on prie. Je veux dire, il y en a plein de religions sur la terre qui font les choses parce qu'elles font les choses. Il y a plein de pratiques culturelles qu'on a au Québec qu'on fait parce qu'on les fait. C'est tout, sans raison particulière. C'est notre mandat à nous d'offrir l'opportunité à nos enfants d'engager leur intelligence dans ça, d'engager leur cœur dans ça, de saisir les opportunités au fur et à mesure dans la semaine qu'elles se présentent pour pouvoir ouvrir les Écritures et dire, regarde, vois-tu, tu me partages ça. Tu es en train de vivre ceci à l'école. Allons ouvrir les Écritures ensemble. Laisse-moi te montrer quelle est la perspective de Dieu sur ça. Essaie de comprendre ce qui est en train de se passer ici dans ta vie et essaie de voir ce que Dieu attend de toi ici et comment Dieu veut t'accompagner là-dedans. Voyez-vous, on a ce mandat-là. Et si comme parents, nous ne nous appliquons pas à faire ça avec nos enfants, ça devient une religion. C'est une religion et c'est la religion de mes parents, c'est tout. C'est la religion de mes parents. Comment voulez-vous qu'ils voient les choses autrement si vous les traitez comme s'ils n'avaient pas l'intelligence pour comprendre ces choses-là? Dieu leur a donné la même intelligence que vous et ce cheminement-là doit susciter, doit solliciter constamment leur intelligence pour comprendre et choisir. Alors c'est vrai, mes enfants ont 11 et 13 ans. Et par la grâce de Dieu, tant aussi longtemps qu'ils vont vivre sous mon toit, ils vont être à l'église ici le dimanche matin. Étant pertinemment conscient que mes enfants ont un choix personnel à faire, mais c'est vrai, ils vont me suivre et régulièrement, on jase avec les enfants puis on dit, écoute, ça va être ton choix en définitive. Moi, je sais, j'ai expérimenté qu'il n'y a rien de comparable à Jésus-Christ. Mais toi, tu as un choix à faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Je veux m'adresser à leur intelligence. Quand Dieu m'a révélé Jésus-Christ, il m'a révélé un message extraordinaire et s'est adressé à mon intelligence et à mon cœur. Et quand j'ai fait le calcul, quand j'ai mis les choses sur la table, quand j'ai mis ça dans la balance, j'ai dit, honnêtement, je serais vraiment stupide de ne pas accepter ce qu'il est en train de m'offrir là. J'ai besoin de toi, Christ. C'est ce que je veux annoncer à mes enfants. C'est bon? Alors, voyez, il y a vraiment ces deux éléments-là. Communautaire, individuel, le plus intelligent et individuel possible. C'est l'objectif, l'engagement du cœur. On vit ça ensemble, mais on veut que tous puissent être instruits et prendre un choix, prendre une décision éclairée. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux volets à leur engagement. Il y a ce volet très, très global, où ils vont dire tout simplement au verset 29, il dit, « Se joignirent à leurs frères, les plus considérés d'entre eux, ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel. » C'est très global. C'est un engagement du cœur qui, sans prendre le temps de réviser chaque détail du contrat, puis de paraffer, de mettre des initiales à côté de chaque élément des centaines de pages du contrat, c'est un engagement global du cœur qui dit, je m'engage. Dieu, tu es Dieu, tu es bon, tu es fidèle, je m'engage. C'est cette disposition globale, générale, fondamentale. Puis il y a quelque chose qui se passe ici, après qu'ils aient dit cela, dans les versets 30 jusqu'à la fin du chapitre 10, là, ils vont aller relever différents éléments précis de la loi qui, dans leur histoire depuis longtemps ou dans leur histoire récente, demandent une attention particulière. Des versets 30 jusqu'à la fin du chapitre 10, verset 39, ils vont relever des éléments où c'est clair dans leur histoire que ça demande plus de réflexion. Et je crois qu'il y a un principe vraiment important ici pour toute reconstruction avec Dieu. Voyez-vous, un engagement avec Dieu pour reconstruire demande un engagement global et demande une attention particulière sur des domaines précis de notre vie. Un couple qui fonctionne et qui est en santé repose sur ces deux éléments-là. Chérie, je t'aime et je te donne ma vie entière. Écoutez, ça prend ça. Autrement, on s'en va nulle part. Mais encore, Quelle forme ça va prendre, ça, chérie? Ça veut-tu dire que tu vas sortir les vidanges? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir parler pour de vrai et tu vas prendre le temps de m'écouter? Est-ce que ça veut dire que tu t'engages à me pardonner chaque fois que je vais manquer parce que je suis imparfait? Et dans chacun des couples, les attentions particulières deviennent particulières parce qu'elles ont leur histoire. Voyez-vous, dans n'importe quoi où on veut bâtir, on veut construire, aussi simplement que dans le sport, ça demande la même chose. Ça fait 3 ans que je fais du karaté avec les enfants. Ben, quand on s'installe toute la gang, puis on est 30 à se préparer à faire nos katas, tout ça, le prof qui est en avant les regarde, puis il dit, « Toi, j'ai pas ton engagement global parce que tu es là. » Puis, écoute, j'ai même pas commencé à te demander à travailler sur ça. T'es même pas là. Est-ce que tu es ici avec nous aujourd'hui? C'est l'engagement global. Et si je suis là, je suis disponible. Là. Je veux avoir des défis, je veux avancer, je veux progresser dans mon sport. Après ça, qu'est-ce qu'il va faire, mon coach? Il va me dire, OK, Yannick, ça, tu travailles ça cette semaine. Ça, tu travailles ça. Quand tu fais des 360, Yannick, c'est pas joli. Ça manque de grâce, ton affaire. Tu as l'air d'un vieux gossou qui a besoin d'un mur pour se relever. Oui, je vais pratiquer ça cette semaine, promis. Ben, s'il n'a pas besoin de pratiquer ça. Il en fait 360. Il est encore en train de rire de papa. Comprenez? C'est d'autres choses avec Bastien. Un peu de concentration, Bastien, t'es pas une sauterelle. Le coup de poing va rentrer si tu le regardes pas arriver. Vous voyez? Mais dans nos deux cas, Bastien ou moi, on a besoin d'être là, avec tout notre camp disponible pour travailler. C'est l'engagement global. Après ça, le coach va nous dire, travaille sur ça, ça, ça. En musique, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir à maîtriser une pièce? On va identifier les éléments qui sont problématiques, puis on va les répéter, on va les répéter, on va les répéter. Mais qu'est-ce qui va me permettre de répéter ces 3 mesures-là? 150 fois, je vais le découper encore plus petit si c'est nécessaire. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir cette passe-là à la guitare? C'est que j'ai premièrement l'engagement global, je veux réussir. Voyez-vous? Alors, il y a vraiment ces 2 volets-là qui sont présents. J'ai besoin de cet engagement envers Dieu, qui est inconditionnel, qui dit « Dieu, t'es Dieu, moi je veux te suivre, je signe le contrat, away ». Après ça, on dit « OK, maintenant le Saint-Esprit a identifié quelques domaines précis, on va travailler plus concrètement. Je t'aime, mais encore. » Traduisons ça de manière plus concrète. Alors, c'est ce qu'ils font ici. Et dans leur cas, ils avaient une histoire assez mélangée avec les peuples environnants et je ne pourrais pas rentrer dans l'histoire ce matin pour expliquer à ceux qui sont moins familiers avec l'Ancien Testament certains aspects de cette loi-là qui doivent définitivement choquer vos oreilles. Si ça ne choque pas vos oreilles, c'est que vous êtes des vieux machos encroutés. Et la seule manière que vous pouvez vous réconcilier avec ça, c'est en comprenant la culture, en comprenant les objectifs et les directives qui sont donnés. Je ne pourrais pas aller dans tous les détails ce matin, je suis désolé. Mais je vais faire ressortir quelques éléments. En gros, il y a 3 éléments que je veux faire ressortir dans leur engagement particulier à eux. Quand je veux l'illustrer, c'est là dans le texte. Après ça, je vous demande à vous de chercher qu'est-ce que ça veut dire, vos engagements particuliers, vos attentions particulières à vous. Dans leur cas, consécration sans partage. Consécration dans leurs finances, générosité. Je le résume comme ça. Premièrement, Dieu avait demandé à Israël de ne pas faire de mariage interreligieux. C'est pas une affaire raciale. D'accord? Vous irez lire le livre de Ruth, vous irez lire d'autres livres pour voir que ce n'est pas une question de mariage interracial. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu leur dit, voici, il y a un grand principe dans ton alliance avec moi, je suis Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu dans ta vie. Je veux te bénir. C'est pas bon que tu restes tout seul, Yannick, parce que t'es comme ordinaire tout seul, tu sais. Fait que je vais mettre une compagne à côté de toi. J'ai une condition, Yannick. Faut que ta compagne ait le même Dieu que toi. Parce qu'autrement, ça va être le fouillé là-dedans. Ton cœur va devenir divisé. Tout à l'heure, j'ai mentionné, j'ai plusieurs alliances dans ma vie. J'ai fait alliance avec Dieu. C'est l'alliance qui précède toute alliance dans ma vie. Il n'y en a aucune qui va supplanter ça. Autrement, Dieu n'est plus Dieu. L'alliance, l'autre alliance qui deviendrait plus importante que mon alliance avec Dieu deviendrait mon Dieu. Parce que Dieu, par définition, c'est celui qui a suprême autorité sur ta vie. Il est Dieu. Autrement, c'est un serviteur. C'est ton égal. C'est ton pote qui pourvoit tes besoins quand tu as besoin de lui. Mais c'est pas Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. Cette alliance-là supplante toutes les autres alliances que je contracterai jamais dans ma vie. J'ai fait une deuxième alliance dans ma vie importante avec mon épouse, avec Esther. C'est une alliance extrêmement importante. Mais s'il fallait qu'Esther ait fait une alliance avec un autre Dieu que le mien, on aurait un méchant problème. Parce que chaque fois qu'elle va demander que je fasse quelque chose qui va à l'encontre de ce que ma première alliance me demande, je vais refuser. Je trahirai mon Dieu. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, Esther. Dieu est 100 fois plus important que toi dans ma vie. 1000 fois plus, 1 million de fois plus important que toi dans ma vie. Ce serait le fun si on avait le même Dieu, hein? On pourrait avancer ensemble. Parce que ce qu'il y a de plus important dans ma vie, j'aimerais ça le partager avec toi. Si on a le même Dieu, on va avancer ensemble. Israël avait manqué à ce principe-là. Et Israël contractait des mariages interreligieux avec des gens qui adoraient d'autres dieux. Ceci amenait un paquet de problèmes et un paquet de péchés. Parce que veut pas qu'il s'attache à une femme, hein? Qu'il s'attache à un mari, il le laisse influencer sa vie. C'est normal, c'est ça le but. Le but, c'est qu'Esther m'aide à grandir puis que je l'aide à grandir. Qu'elle m'aide à grandir dans le service de quel Dieu? Alors, voyez-vous, Israël faisait des mariages interreligieux avec tout ce que ça impliquait, tout ce que ça avait comme implication. Et à ce moment-là, ils ont dit, nous reconnaissons que nous avons manqué à cet égard. Et ils n'ont pas fini de le reconnaître parce qu'on revient là-dessus au chapitre 13. C'est encore important aujourd'hui. C'est encore quelque chose de fondamental. Voyez-vous, si les gens ne comprennent pas ma foi, ce qu'ils vont penser de moi, c'est que je suis un Jesus freak. J'ai besoin de marier une autre Jesus freak. Parce que sinon, elle va vraiment penser que je suis freak. Mais comme elle est aussi folle que moi de Jésus, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça demeure important. Paul nous dit que ça demeure absolument fondamental. C'est un premier domaine. Un deuxième domaine, si vous le voyez vraiment, c'est avec leurs finances et tout ce qui est relié au service de Dieu. Alors, ils s'engagent, et là, ils font quelque chose de particulier. Au verset 32, ils vont au-delà de la loi. La loi leur demandait pas de donner ce montant-là pour l'entretien du temple à chaque année. C'était aux 7 ans qu'ils devaient donner. Mais eux prennent la décision de donner à chaque année. Et ça va demeurer lorsqu'on va arriver au temps de Jésus. Ça demeure, ça a été encore un changé un petit peu, mais c'est toujours plus que la loi. Je prends le temps de le mentionner parce que je crois que c'est ça aussi marcher avec Dieu. Eux prennent un engagement à l'égard de leurs finances parce que ça parle énormément de leur cœur. On parle de fric ici, on parle de tout. Et donc, ils prennent un engagement dans l'entretien du temple. Mais la loi, c'est bien. Nous, on voudrait faire un peu plus. Et ça parle beaucoup de cet esprit de relation que nous avons avec Dieu. Dans vos attentions particulières, ces domaines où Dieu veut travailler dans vos vies et demande un engagement particulier et précis, ne cherchez pas à satisfaire la loi ou quelque chose comme ça. Soyez attentifs à votre histoire et ce que Dieu veut travailler. Leur engagement ici dépasse même le cadre de la loi. Mais ils prennent un engagement très ferme et ils disent, là où est notre cœur, notre fric va être là aussi. Vous remarquez que c'est très concret, hein? On parle de mariage, on parle de fric, on parle de générosité. C'est de ça dont on est en train de parler ici, parce que l'autre engagement que je veux relever, c'est justement à la fin du verset 31, lorsqu'il dit « Et n'exigeant le paiement d'aucune dette à la fin de chaque 7 ans. » C'était un problème au début du livre de Néhémie. Ils étaient très, très durs, exigeants envers les uns envers les autres, se retrouvant même à vendre certains d'entre eux comme esclaves. Et donc, ils prennent l'engagement ici à effacer les dettes à toutes les 7 ans. Ce qui veut dire que si quelqu'un a fait de la mauvaise gestion, je l'ai aidé financièrement, puis après un certain temps, il est encore dans le trou, eux autres se sont engagés selon la loi à effacer les dettes. Perte sèche. On efface les dettes. On donne une autre chance. C'est toute la générosité. Je prends le temps de le relever parce que je vais essayer d'illustrer quelque chose. Ça devient extrêmement concret. On parle de mariage, il n'y a rien de plus sérieux que mes amours, que l'amour de ma vie, mon épouse. On parle de fric, c'est concret ça. On parle de générosité. Vous savez que les Québécois ne sont pas réputés comme des gens généreux parmi les Canadiens? On ne brille pas par notre générosité pour des œuvres sociales. Ça ne fait pas partie de nos marques distinctives. On est des gens chaleureux. On est des gens accueillants. Arriver à Montréal, c'est se sentir accueilli souvent. Mais la générosité ne fait pas partie de ceux-là. Et souvent, lorsque les gens parlent de la foi, voyez-vous, ils vont faire deux reproches. Soit qu'ils vont dire, ah, la foi, c'est des affaires pour les flyer. Tu sais, moi, je suis terre à terre, je suis concret. Et là, si la foi devient un peu trop concrète, comme l'amour de ta vie, ton fric, ta générosité, ah, ça, c'est de la manipulation, par exemple. Là, ils veulent avoir notre argent, ils veulent diriger notre vie, ils veulent contrôler notre vie. On s'en va où avec ça? Ce qu'Israël est en train de nous montrer ici, tout simplement, c'est que tu t'engages avec Dieu globalement et concrètement, ça doit se traduire en action dans ta vie. Ça doit devenir présent dans ta vie. Je fais une autre parenthèse, très, très courte. Si à chaque fois que tu entends parler d'argent dans l'Église, voyez-vous, là-dedans, ça parle de la dîme, vous savez quoi, je donne plus que 10% pour le Seigneur? Puis j'espère donner plus, puis plus, puis plus. Si ça vous fatigue à chaque fois, puis vous dites, ah ouais, l'Église, elle veut avoir de l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y a des abus. Moi, j'aimerais ça vous proposer de faire un test pour voir si votre empêchement à cheminer, c'est vraiment ces scandales dont vous avez entendu parler, ou si ce ne serait pas parce que votre première alliance est liée à votre argent. Si je vous demandais de donner 10% de vos revenus, mais pas à une église de grâce, donnez-le à Centraide. Êtes-vous ouvert à faire ça? Êtes-vous ouvert à chercher cette générosité? Vous savez qu'on est riche. Alors, je sais que c'est dur d'arriver, c'est dur de balancer. On est pareil comme vous. Pareil. Mais si je vous demandais de donner 10% de vos revenus à Centraide ou n'importe quelle cause que vous voulez, êtes-vous ouvert à considérer cela? Donnez pas à une église, vous savez, ces gens-là sont là pour avoir votre argent, mettre ça dans leur poche. Les pasteurs roulent tout en Mercedes, on le sait. Je vous amène faire un tour tantôt, si vous voulez, dans ma Mercedes. Mais si je vous demandais de donner 10% à une cause humanitaire non religieuse, est-ce que vous êtes ouvert à ça? Si vous êtes complètement fermé à ça, je pense que votre cœur est en train d'être révélé. Parce que les Québécois ne sont pas des gens généreux, pas dans ce domaine-là. D'accord? Et si plus tard, après que vous donniez fidèlement 10% à Centraide depuis plusieurs années, l'Évangile vient entrer dans votre cœur, ça se peut que, comme moi, vous disiez, il y a juste nous qui pouvons annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ça vaut la peine que je donne pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça vaut la peine. Fin de la parenthèse. Voyez-vous, engagement global, attention particulière, ça devient concret. On parle de fric, de mariage, de générosité. Ce que je retiens de ça, c'est concret, 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 pratique. Si vous prenez le temps de lire attentivement le passage, ils n'ont pas fait une grande fête où ils ont dit, « Oh Dieu, nous t'aimons et nous te servirons toujours. » Et salut, à la semaine prochaine. Ça veut dire quoi, ça? Chérie, je t'aime. Et cette semaine, je m'engage à faire ça, ça, puis ça. Mon Dieu, je t'aime. Voici, je sais les domaines où tu veux travailler dans ma vie, des domaines où il y a une inconsistance, une incohérence dans mon engagement envers toi, des domaines où mon témoignage n'est pas celui d'un chrétien et j'y porte une attention particulière. Je vais prendre un engagement pratique et concret. Je vais définir comment ça va se faire. Vous avez besoin d'être plus près de Dieu. À quelle heure demain matin tu rouvres ta Bible pour prendre du temps avec le Seigneur? Engage-toi ce matin, on a pris le repas du Seigneur. À quelle heure demain matin tu rouvres ta Bible pour prendre du temps avec Dieu? Seigneur, je veux me rapprocher de toi. OK, book un rendez-vous. Tu n'as pas de rendez-vous, comment tu vas t'approcher de lui? Tu peux attendre le prochain incident dans ta vie pour dire, ouch, ah oui, c'est vrai, tu existes, Dieu, j'ai besoin de te parler. Mais book un rendez-vous avec lui. Ah, Seigneur, je veux mettre de l'ordre dans mes finances. Merveilleux, qu'est-ce que tu fais? OK, c'est quand? Va voir un frère, dis-y, je m'engage à faire ça, prie pour moi, demande-moi des nouvelles la semaine prochaine parce que je suis sérieux. Je suis sérieux. Tu veux connaître la famille de Dieu, prier les uns pour les autres. Qu'est-ce que tu attends pour aller dans un petit groupe? Tu viens ici dimanche matin, bonjour, je vous aime, j'aime Jésus, salut, à la semaine prochaine. Joins-toi à un groupe. Il faut que tu pries avec des chrétiens, il faut qu'il y ait une communion. Tu veux annoncer l'Évangile. Qu'est-ce que tu fais? Viens servir à bouffe pour tous. Viens annoncer l'Évangile d'ici. Voyez-vous, concret, pratique. Ça reste pas quelque chose de global et de général. Ça devient concret. Il y a ces deux éléments-là dans l'engagement. Maintenant, je termine sur ceci. Parce que si vous ne connaissez pas personnellement l'Évangile, si vous n'avez pas été touché par la grâce de Jésus-Christ, tout ça, là, ça peut sembler extrêmement lourd. Si vous prenez le temps de lire attentivement les versets 30 à 39, c'est gros les engagements qu'ils ont pris. C'est énorme. Et si vous fréquentez des chrétiens depuis quelque temps puis vous nous regardez aller, boy, on est engagé, ça n'a pas de bon sens. Souvent, je dois m'asseoir avec les enfants puis leur rappeler pourquoi on est tellement engagé, parce que les enfants, ils disent, papa, je regarde les amis à l'école puis c'est chill pas mal leur vie. Je le sais, les enfants. Christ m'a touché par sa grâce. Il faut qu'on atteigne ce monde-là. Ils ont besoin de Jésus. Alors, si vous n'avez pas été touché par la grâce, il y a des aspects de la vie chrétienne où ça peut sembler tellement lourd. Maintenant, tournez avec moi dans Néhémie 12, 43. Lorsqu'ils font la dédicace des murailles, ce qui ressort de cette journée-là, c'est que c'est une journée de fête absolument extraordinaire. C'est une journée de fête absolument merveilleuse. Verset 43, « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. » Cet engagement qu'Israël a pris envers Dieu dans cette période-là, c'est un engagement joyeux. C'est un engagement heureux. Et la raison pour cela, ça c'est vraiment important. La raison pour cela, c'est qu'Israël s'est engagé à renouveler son alliance envers Dieu après que Dieu lui ait fait grâce et l'ait sauvé. Et il en va toujours ainsi avec Dieu. Il en va toujours ainsi avec Dieu. La seule motivation valable pour s'engager comme eux autres le font, c'est la reconnaissance. Voyez-vous, lorsqu'Israël a contracté pour une première fois son alliance avec l'Éternel, c'est lorsque Dieu les a conduits à l'écart au mont Sinaï. Mais il faut connaître l'histoire qui précède ça. Dieu est allé prendre un peuple qui n'était pas un peuple. Un peuple d'esclaves en Égypte, qui étaient écrasés, misérables et malheureux. Plus ils se multipliaient, plus les Égyptiens trouvaient moyen d'alourdir la charge pour qu'ils les tuent littéralement à l'ouvrage. Et Dieu va prendre ces gens-là qui n'étaient pas un peuple, qui n'étaient rien, c'était un peuple d'esclaves. Et il les libère, il les délivre, il les sauve, il leur fait grâce. Ils n'étaient rien. Dieu a jeté son dévolu sur eux, les a rachetés, les a sauvés, les a conduits au mont Sinaï et il leur a dit, « Voici ce que je vous propose, les amis. Je vous ai fait grâce. Voulez-vous vous engager maintenant avec moi? » Et Israël a dit, « Amen. Amen. Nous, on connaît l'Éternel. Dieu est bon. On s'engage envers toi. » Lorsqu'on arrive dans le livre de Néhémie, c'est exactement ça qui se passe. Israël a été infidèle à son engagement. Dieu a châtié Israël, l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël que vous pouvez lire dans tous les livres, nous raconte ce récit. Israël a finalement été déporté, enlevé. Ils ont été conquis par d'autres nations parce qu'ils étaient détournés de Dieu. Ils ont été déportés et ils étaient malheureux. Et quelques chefs ont commencé à crier à l'Éternel pour dire, « Seigneur, nous avons péché contre toi, nous avons été infidèles à notre alliance. Aie pitié de nous, Seigneur. » Et Dieu les a ramenés en Israël. Lorsqu'ils contractent cette alliance avec l'Éternel, c'est après que Dieu les ait ramenés en Israël. C'est une alliance qui est un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est l'Évangile qui est annoncé ici. Voyez-vous, si moi je suis un Jesus freak, si je roule à 200 000 à l'heure, si je suis prêt à consumer ma vie à servir Christ, c'est pas parce que je suis too much, c'est pas parce que je veux dire à Dieu, regarde-moi aller, t'es mieux de me laisser rentrer au ciel parce que je suis quelqu'un. C'est parce que Dieu est venu chercher quelqu'un qui n'était rien, qui était dans son péché malheureux, qui tournait en rond, qui détruisait sa vie à grands coups de masse. Il est venu me chercher, il m'a fait connaître la grâce de l'Évangile. Il m'a dit, Yannick, je te choisis. Je choisis, je t'offre ma grâce, mon pardon. Je te propose, Yannick, d'effacer tous tes péchés et de placer en toi mon esprit. Veux-tu marcher avec moi, Yannick? Et donc, mon engagement à tous les jours envers Jésus-Christ, c'est un engagement de reconnaissance. C'est un engagement joyeux. Alors, à ceux d'entre vous qui entendez à travers toutes ces prédications toutes sortes de lois, toutes sortes de fardeaux qui sont déposés sur les gens, trouvent probablement que vous n'avez jamais saisi la grâce. Vous ne connaissez pas l'Évangile. S'il vous plaît, ne contractez aucune alliance avec l'Éternel, aucune alliance. Ne faites pas cela. Vous vous engageriez dans une religion. Vous essayeriez de toutes vos forces à plaire à Dieu puis à pouvoir caser toutes les cases du checklist d'un bon petit religieux, un bon petit évangélique, un bon petit baptiste. C'est pas ça. C'est pas ça la relation avec Dieu. La relation avec Dieu va toujours ainsi. Dieu vient, il te révèle sa grâce, il te sauve par la puissance de son évangile. Tu réalises que tu es pécheur, il vient faire passer son évangile sur ton cœur, tu es pardonné. Il te donne son esprit à travers le processus. Tu t'engages de tout ton cœur à le suivre. Et là, tu es prêt à prendre un engagement qui est un engagement joyeux, heureux, de grâce. Et tu es prêt à t'engager concrètement aussi, de manière très pratique. À ceux d'entre vous qui ont été saisis par la grâce et qui avaient laissé certains péchés prendre la place dans vos vies et vous êtes misérables, assis dans vos ruines, vous avez besoin d'avoir deux aspects à votre engagement pour pouvoir reconstruire avec Néhémie à long terme, reconstruire avec Dieu à long terme. Retournez à votre premier amour. Retournez à la croix. Méditez et priez sur cette grâce que Christ vous a fait en mourant sur la croix pour vous, afin de prendre encore une fois cet engagement global envers Dieu. Et puis dressez l'oreille pour entendre là où l'Esprit-Saint vous demande de porter une attention particulière. Prenez des engagements pratiques, des actions concrètes, afin que tout ça ne reste pas un vœu pieux, mais que ça se traduise concrètement dans votre vie. Et vous allez goûter progressivement la joie de marcher avec Christ et d'entendre de plus en plus l'Esprit de Dieu vous parler. Remplez votre cœur de joie. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, on a tant à apprendre de ces hommes qui pourtant n'avaient pas saisi l'Évangile comme nous. Seigneur, Néhémie a vécu avant de voir Jésus. Néhémie a vécu avant d'entendre Jésus parler. Néhémie a vécu avant de voir la croix, Seigneur. Et pourtant, il avançait par grâce. Ils ont renouvelé leur engagement envers un Dieu qui leur a fait grâce. C'est une communauté de gens graciés qui se sont engagés, Seigneur. Et ils se sont engagés concrètement. Seigneur, j'aime l'esprit de ce peuple que je vois là qui déclare, Seigneur, tout est à toi. Mon cœur entier est à toi, Seigneur. Parle-moi, je veux avancer avec toi. C'est ce que nous voulons te chanter ce matin, Seigneur. Nous voulons te chanter que notre cœur entier est à toi. Viens nous accorder cette joie et cette grâce de marcher avec toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.